Depuis hier, au moins 5 journalistes français, un publicitaire, ont été écartés ou renvoyés de leur poste. Leur motif, avoir passé plusieurs mois sur Twitter à insulter en toute impunité des femmes qui avaient eu le malheur d'apparaître sur leur radar. Entre les témoignages poignants sur le cyberharcèlement dont ces femmes ont été victimes de la part des membres de cette Ligue du LOL, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, et les résultats de l'enquête de la Fondation Jean Jaurès et de Conspiracy Watch qui indique une nette progression du complotisme dans l'opinion publique française par l'entremise des plateformes en ligne, chacun comprend bien qu'il y a quelque chose de pourri au royaume des réseaux sociaux. Sexisme, homophobie, harcèlement, violence verbale, phénomène de meute, complotisme, paranoïa, extrémisme. Peut-on encore apaiser le débat en ligne ou bien la logique des plateformes internet rend-elle ces dérives inéluctables? Pour en parler, je suis en compagnie de Rudi Rechtad. Bonjour, vous êtes directeur de Conspiracy Watch, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, et vous avez publié une enquête récemment, Complotisme 2019, les grands enseignements pour la Fondation Jean Jaurès. À côté de vous, Romain Badoir, bonjour, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information à l'Institut français de presse, et vous avez notamment publié Le désenchantement de l'Internet en 2017. Et puis également avec nous, mais cette fois-ci en duplex depuis Lyon, Florence Porcel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vulgarisatrice scientifique et vous êtes donc dans le studio de Radio France à Lyon, que je remercie. Florence Porcel, vous avez été la victime de cette Ligue du LOL, vous êtes l'une des victimes de cette Ligue. Et qu'avez-vous eu comme premier signe de l'existence de cette Ligue du LOL? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez été donc en contact avec cette dite Ligue?
Oh bah, il m'a fallu d'être sur Twitter, hein, juste ça, et d'avoir commencé à me faire un nom dans ce petit milieu. Et donc à partir de 2010, j'ai commencé à recevoir des tweets malveillants, insultants, injurieux, de plusieurs personnes, pour la plupart anonymes ou sous pseudonymes. Voilà, des raids ciblés, réguliers, qui ont commencé leur travail de sape. Ensuite, j'ai eu droit à des photomontages à caractère pornographique, ce qui est toujours très dégradant. Et puis ensuite, j'ai été intimidée physiquement par un groupe d'entre eux qui sont venus jusqu'à mon lieu de travail, et ça s'est terminé par un canular
intimidé, téléphonique. C'est-à-dire qu'ils venaient vous menacer sur votre lieu de travail? Comment ça s'est passé?
Me menacer, non, c'est peut-être un peu fort, mais je travaillais à la télévision à l'époque pour une émission qui se passait en direct sur France 5, et ils sont venus sur le plateau à la fin du direct pour m'entourer et me demander de leur présenter le co-présentateur de l'émission, qui était François Rollin, et ils n'avaient pas du tout l'intention de partir avant que je leur rende ce service, donc il a bien fallu que je m'exécute. Voilà, mais c'est forcément très très intimidant de voir cinq ou six personnes autour de soi qui nous entourent et qui font une tête de plus que soi et qui sont connus pour m'avoir harcelé depuis des années, donc c'est évidemment une situation un petit peu délicate.
Et alors ces types ont débarqué donc sur le plateau de cette émission à laquelle vous collaboriez, Florence Porcel, et vous les connaissiez parce que vous voyez leur tête. Est-ce que vous avez dit je vais porter plainte, ou est-ce que c'était compliqué à l'époque, d'une part de considérer que ça relevait d'une infraction et d'autre part de le faire? Comment ça s'est passé?
En fait, je n'en ai reconnu qu'un seul, hein, qui était sur Twitter sous son vrai nom, sous son vrai visage. Les autres, je ne savais pas comment ils s'appelaient, et j'aurais été incapable de mettre un nom sur un visage parce que je ne connaissais pas leur visage et que voilà, je savais pas qui était qui. Donc c'est très compliqué dans ces cas-là de porter plainte quand on ne sait pas à qui on s'adresse. À l'époque, c'est vrai que je connaissais moins mes droits, je ne savais pas qu'il y avait des choses qui tombaient sous le coup du code pénal. Et puis encore une fois, on ne peut pas porter plainte quand on est une jeune femme avec une situation un peu précaire, et qu'on sait que de toute façon, s'il y a une plainte, on va se prendre encore du harcèlement ciblé et d'une toute autre ampleur. Donc c'était la plainte dans ces cas-là, la justice est une double violence.
Bien sûr. D'ailleurs, le terme de harcèlement, est-ce qu'on se le dit dans sa tête ?
Oui, on se le dit. Quand ça dure depuis des années, que c'est ciblé, que c'est régulier.
Parce que le cyberharcèlement, on était à ses débuts. En 2010, Twitter, c'était vraiment quelque chose de balbutiant.
En France, oui, c'était balbutiant. On n'était pas nombreux. Hein. C'était un tout petit milieu. Tout le monde se connaissait quasiment. Et voilà. Et il y avait. C'est un petit peu comme dans les cours d'école. Hein. Il y a les caïds et puis il y a les harcelés. C'était exactement les mêmes mécanismes. Hein. C'est de ça dont on parle.
Est-ce que l'on peut connaître ou bien le nom de ces personnes qui vous ont harcelé, ou bien si vous ne souhaitez pas le dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous ne souhaitez pas les nommer ? Est-ce que ce sont des journalistes connus ?
Je peux nommer David Doucet, qui a été l'auteur du canular, parce que voilà, il a fait un message d'excuse sur Twitter. Moi, quand j'en ai parlé, j'ai pas voulu le nommer par peur d'une plainte en diffamation, et puis parce que j'étais pas sûre à 100% que ce soit lui, en fait.
David Doucet, qui est journaliste aux Inroc.
Oui, absolument. Donc je peux le nommer. Maintenant, pour les autres, moi j'ai découvert leur nom ce week-end, hein, tout comme vous, parce qu'en fait ils étaient sous pseudonyme, donc je ne connaissais pas. J'avais quelques prénoms quand même, mais pas les noms entiers. Donc voilà, j'ai découvert tout ça comme vous, et j'ai pu mettre des noms sur des visages, enfin, plus de 6 ans plus tard.
Est-ce que vous en avez parlé à des amis, à des gens qui auraient pu vous aider à l'époque, ou est-ce qu'au contraire, quand on est victime de ce type de cyber harcèlement, on s'isole et on reste comme ça un peu seul avec sa douleur et ses craintes, Florence
oui,
Porcel.
Oui, c'est ça qui fait leur grande force aussi, c'est qu'ils savent qu'on est isolé. Effectivement, je l'étais. Moi, j'ai mis plusieurs mois à parler du canular à ma meilleure amie, mais cela dit, j'en ai parlé à mes patrons à l'époque, puisque l'un d'entre eux aurait pu être touché par le même genre de canular. L'autre.
Quel était ce canular, Florence Porcel ? Pardon, je vous ai interrompu. Oui, si vous souhaitez, là aussi, nous dire de quoi il s'agit.
Bien sûr, en fait, David Doucet m'a appelé un soir en se faisant passer pour Laurent Bon, qui était le producteur, je crois, du Grand Journal et du Petit Journal à l'époque, et pour me proposer un poste à la rentrée suivante dans le Petit Journal. Alors évidemment, quand on est une intermittente et qu'on ne sait pas si on va avoir du travail l'année suivante, on prend toutes les opportunités. Et voilà, donc c'est déjà humiliant en soi, mais ce qui est encore pire, c'est que ce canular a été mis en ligne et donc rendu public, ce qui est passible d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, je crois. Ça, je ne le savais pas à l'époque. Mmh. Mais voilà, et il est resté en ligne pendant 6 ans. Il a été supprimé seulement ce week-end. Une simple recherche Google et on pouvait tomber sur ce canular. Et donc, j'avais toujours ça dans un coin de ma tête. C'est
alors,
pas très agréable.
Comment tout cela est-il ressorti ? Parce que donc, cette ligue du LOL, j'imagine que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de ce nom, je ne sais pas du tout ce que cela désigne.
Dans l'histoire. Le grand public, non. Dans le milieu du journalisme, si.
Racontez-nous, Florence Porcel.
Comme c'est principalement des journalistes ou des communicants et que les victimes sont aussi beaucoup beaucoup de journalistes, forcément dans le milieu ça se savait et depuis quelques mois, moi j'en ai parlé à des journalistes autour de moi et je savais que ça sortirait à un moment donné parce que ça faisait quelques mois que les gens se demandaient s'ils allaient pas faire des enquêtes, sortir des papiers, mais c'était compliqué pour eux parce que souvent ils pigeaient pour les magazines dont les harceleurs étaient des rédacteurs en chef.
En l'occurrence, les Inroc, juste pour expliquer, donc les Inroc pour David Doucet, il y avait deux journalistes qui appartenaient à cette ligue du LOL qui travaillaient pour Libération. Il faut rappeler aussi Florence Porcel, parce que on ne le dit pas souvent en ce moment, qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont précaires et dont la situation n'est absolument pas assurée, qui ne font pas du tout partie de gens qui ont un travail stable. C'est important, à mon avis aussi, de le souligner.
Oui, tout à fait.
Romain Badoir, qui est également des nôtres, Romain Badoir est maître de conférences en sciences de l'information. Vous aviez entendu parler de cette ligue du LOL ?
Non, pas avant la semaine dernière. Pas avant la semaine dernière. Ce qui est notable dans cette affaire, c'est vraiment le fossé qui sépare les faits qu'on reproche à ces personnes, qui sont des faits d'intimidation, de harcèlement, d'usurpation d'identité, et les justifications qu'elles ont pu donner de leurs actes, qui sont de l'humour, de l'ironie, des canulars. Et je pense qu'il faut aussi remettre ça dans le contexte, c'est ce que vous disiez, le début des années 2010, les débuts de Twitter en France, où sont présents sur cette plateforme surtout des hommes très diplômés, issus des classes supérieures, qui maîtrisent certains codes du débat en ligne, comme le trolling, l'ironie, l'agressivité. L'idée de pourrir des conversations, de pourrir des gens, des personnalités, mais de le faire au nom du énième degré, si vous voulez. Et les effets très concrets que cela produit chez les victimes, et c'est ce qu'on voit dans les témoignages qui se sont succédés sur Twitter, qui sont des phénomènes d'autocensure très forts. C'est-à-dire que ces jeunes femmes, elles intègrent le fait que si elles veulent être un peu tranquilles, il vaut mieux qu'elles se taisent, qu'elles ne prennent pas la parole et qu'elles ne défendent pas leur position, ce qui est aussi beaucoup de militantes féministes qui ont été prises à partie. Et donc qui intègrent le fait qu'il vaut mieux qu'elles se taisent.
C'est ce que vous êtes dit, Florence Porcel.
Ah mais totalement, il y a un gros travail de sape derrière. On nous dit vraiment vous n'avez pas votre place ici et à la moindre au moindre essai de vouloir prendre la parole, c'était très compliqué, c'était d'une violence assez inouïe et c'était systématique. C'est ça le truc, c'est que c'est un système aussi. Il faut déconstruire tout ça pour pas que ça arrive à nouveau.
Et oui, parce que moi, par exemple, je n'ai jamais entendu parler de cette ligue du LOL avant ce week-end, mais on est tous confrontés à Twitter. Il n'y a pas un moment, justement, où vous vous êtes dit, je me retire de Twitter, après tout, j'aurai plus de compte Twitter, je me retire des réseaux sociaux et comme ça, ils arrêteront.
Mais non, mais alors c'est pas possible ça parce que Twitter c'était en partie un moyen pour moi de réseauter, d'avoir du réseau. Moi j'ai trouvé du travail à chaque fois sur les réseaux sociaux, dans les médias. Donc me retirer de Twitter c'était vraiment me mettre en danger professionnellement. Donc j'ai tenu le coup, mais voilà à quel prix. Et ils le savent en face, ils le savent très bien. Donc quand ils disent oui c'était pour rire, etc. On savait pas, ils savaient très bien ce qu'ils faisait.
Il savait très bien quoi, c'est-à-dire que votre souffrance était réelle, que c'était pas du tout quelque chose qui vous faisait rigoler quoi.
Ah bah oui, bah bien sûr, mais je pense qu'ils jouissaient de la souffrance qu'ils donnaient à toutes leurs victimes, ça c'est certain. Quand ils disaient que c'était pour rire, oui, ça les faisait rire eux, mais ils savaient très bien qu'en face, c'était pour humilier, pour dégrader, pour faire taire. Il y avait cette volonté-là, vraiment, il y avait cette volonté.
Romain Badoit.
Oui, au-delà de cette affaire et d'autres affaires comme celle de Nadia Dam à l'automne dernier.
Il faut rappeler.
Oui, Anna, qui est une journaliste qui s'était aussi faite harceler sur les réseaux sociaux. C'était allé très loin et cette affaire a conduit à la condamnation de deux de ces harceleurs pour la preuve, ce qui était une première en France. Il y a un problème plus général pour le débat public qui est que ces phénomènes de cyberharcèlement, d'intimidation sont utilisés comme des stratégies politiques aussi pour intimider certaines voix, notamment des militants féministes, des militants qui représentent les minorités, qu'elles soient sexuelles, ethniques, religieuses ou autres. Et donc, il y a une conséquence qui est démocratique, qui nous concerne tous, qui est que le débat public sur les réseaux sociaux s'assèche, tout simplement.
Mais alors là, justement, il y a un effet de sidération dans la découverte de cette ligue du LOL, Florence Porcel, qui est liée aussi, je vais dire les choses un peu brutalement, je vais utiliser un raccourci, mais les personnes qui sont impliqué en tout cas ce que l'on en sait, donc vous avez cité David Doucet qui est journaliste aux Inrock, il est aujourd'hui je crois suspendu, et puis deux autres journalistes de Libération, autrement dit la presse de gauche, pas forcément celle qui est attendue sur des insultes sexistes, sur un type de comportement qui est un comportement agressif, je vais pas utiliser de grands mots, mais bon, lorsqu'on utilise ce type de violence là, on n'est pas en tout cas du côté de sentiments qui sont des sentiments bien pensants, évidemment.
Ah ben, clairement pas. Il y a un grand, grand cynisme de la part de ces personnes-là. Mais ça, si la vie m'a appris une chose, c'est qu'il faut jamais se fier aux apparences. Et on sait jamais vraiment qui sont les gens. Voilà, c'est un petit peu la leçon que je retire de tout ça.
Est-ce que vous en avez parlé avec eux depuis, puisque donc l'un de ces journalistes étaient évidemment connus, il avait pignon sur rue. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, je vais en reparler avec lui?
En fait, c'est lui qui m'a envoyé un message d'excuse, un mail. J'ai reçu un mail samedi après-midi, après mes tweets le visant. Voilà, donc j'ai échangé avec lui, ce qui était très très éprouvant parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça sorte à ce moment-là. Et rien que de voir son nom, j'étais très très angoissée. Donc ça a été vraiment éprouvant d'échanger avec lui, mais je suis toujours pour l'échange et pour le dialogue. Il m'a présenté ses excuses. Je lui ai demandé des excuses publiques qu'il a un peu rechigné à faire, mais qu'il a faites et que je le remercie encore. Mais voilà les
mais qu'est-ce
excuses...
qu'il a pu vous dire, Florence Porcel, parce que c'est compliqué d'expliquer ce type de comportement qui relève du sadisme.
C'était pour rire, on était plusieurs, et puis son argument qu'il a redit publiquement, c'était moi je venais de banlieue, je connaissais personne, il fallait que je m'intègre et tout, ce qui est très insultant pour les gens qui viennent de banlieue. Enfin, moi je viens de Champagne, je connaissais personne non plus et je me suis fait ma place sans harceler ni humilier humilier personne. Donc c'est un petit peu facile ce genre d'argument. Mais bon, il a présenté sa vision des faits, on a discuté, voilà.
Un commentaire, Romain Badoir, à ce sujet.
Ce qui est intéressant, c'est que pendant l'affaire MeToo et Balance ton porc, au final, on a assez peu eu de témoignages émanant du monde du journalisme, alors que on sait très bien qu'il y a aussi ce type de pratique qui règne. Et donc, c'est intéressant aussi que les journalistes qui ont participer à faire une cause publique de Balance ton porc ou MeToo, aujourd'hui, se fasse un peu d'introspection pour nous montrer aussi ce qui peut se passer dans ces milieux-là.
Florence Porcel, qu'en pensez-vous ? Lorsque la vague MeToo a débuté il y a un an, est-ce que vous avez dit, moi, ça m'est arrivé ?
C'est autre chose. J'ai pas été agressée ou harcelée sexuellement, en l'occurrence, mais il y a clairement, je savais que ces gens-là faisaient partie des médias. Et moi, ce qui m'a plus interpellé, c'est que aucun média n'ait parlé de l'affaire Besson, par exemple, ou pas grand monde, alors qu'il y a des plaintes, et je me suis dit,
l'affaire s'explique.
L'affaire Besson, Luc Besson, qui a été accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs actrices, dont des plaintes ont été déposées, et ça n'a pas fait grand bruit dans la presse française.
Dans les journaux.
Pas beaucoup, hein. Pas à la hauteur d'une affaire Weinstein, par exemple. Alors que bon, Luc Besson, en France, c'est quand même un grand, grand réalisateur. Et j'ai trouvé que la couverture médiatique n'avait pas été à la hauteur de l'affaire, en l'occurrence.
Et aujourd'hui, quelles sont les suites que vous entendez donner, donc, dans cette affaire dite de la Ligue du LOL? Est-ce que vous comptez porter plainte? Est-ce possible, puisque certains de ces faits sont prescrits aujourd'hui, Florence Porcel?
Oui, alors je suis en contact avec les avocates de la Fondation des Femmes. Je sais que en ce qui me concerne, les faits sont prescrits, malheureusement. C'est pour ça que j'ai interpellé Marlène Schiappa sur la question de la prescription. Je pense que pour nous, c'est trop tard, mais j'ai vu passer sur Twitter que certaines personnes allaient porter plainte quand même pour des faits qui, visiblement, n'étaient pas prescrits. On verra bien, on verra bien.
Est-ce que ça a changé votre relation à Twitter, aux réseaux sociaux ?
Pas vraiment, parce que moi j'y suis depuis une dizaine d'années maintenant, et je tiens le coup, et je vais.
Ça doit pas être facile tous les jours, parce que vous avez eu cette affaire là, mais c'est quand même parfois compliqué de regarder Twitter en se disant que bon, il faut vivre avec tout ça, non ?
Oui, bien sûr, c'est il y a les deux côtés de la médaille sur Twitter, mais faut le savoir, et voilà, il faut apprendre aussi à prendre du recul, même si c'est pas toujours simple.
On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Florence Porcel, vous êtes vulgarisatrice scientifique et vous avez évoqué cette malheureuse expérience que vous avez eue avec la Ligue du LOL. Et puis on est en compagnie du directeur de Conspiracy Watch, Rudy Rechtad, et Romain Badoir, qui est maître de conférence en sciences de l'information. On va voir quel est l'autre aspect des réseaux sociaux, la manière dont ceux-ci véhiculent un certain nombre de thèses conspirationnistes. Et finalement, qu'est-ce que les réseaux sociaux on fait de notre société ? Est-ce l'outil qui pose problème ou bien l'utilisation qu'on en a ? Il est 8h sur France Culture. Pour faire reculer la haine, si on en comprend les mécanismes, on a au moins une possibilité ou une chance d'y parvenir. Nous sommes en duplex depuis Lyon grâce au studio de Radio France Lyon avec Florence Porcel, vulgarisatrice scientifique qui a été l'une des victimes de cette Ligue du LOL, un groupe qui il y a une dizaine d'années, groupe constitué alors de journalistes avec des communicants, des publicitaires qui harcelaient des jeunes femmes mais aussi de jeunes hommes. Et puis nous sommes en studio ici en compagnie de Romain Badoir, qui est maître de conférence en sciences de l'information, et de Rudy Rechtad, qui dirige Conspiracy Watch, qui a notamment réalisé une enquête sur le complotisme, comme vous le faites chaque année, une enquête qui donne des résultats qui en apparence en tout cas sont assez alarmants. Justement, on va en discuter, et puisqu'il a été largement question des actes antisémites depuis ce matin, comment ces actes résonnent avec les différentes études que vous avez faites, Rudy Rechtad?
Vous savez, les actes antisémites, ils sont dans un tunnel de 300 à 1 millier d'actes par an depuis 2000. C'était pas le cas avant. Il y a un palier qui a été franchi en 2000, et on n'arrive pas à descendre en dessous d'environ 300 actes par an. Donc de toute façon, ça baisse, ça monte chaque année, mais depuis 18 ans, 19 ans presque, il faut avoir conscience qu'on a basculé dans un niveau, si vous voulez, d'actes d'antisémites enregistrés à assez élevé. Maintenant, j'écoutais la chronique qui vient d'être
lue. La chronique de Frédéric Saïs.
Absolument. Et ce que ça m'inspirait, c'est que, en partie, cette explosion d'antisémitisme, de slogans, d'actes, de malveillants, etc., ne peut pas, à mon avis, être comprise si on n'a pas conscience du travail métapolitique qui a été réalisé depuis plus de 10 ans dans ce pays par la pointe la plus dynamique, la plus active du complotisme d'extrême droite, du complotisme soralo-dieudoniste en réalité, qui a une influence considérable. On oublie de le dire, mais le site d'Alain Soral, qui est quelqu'un qui se définit comme national-socialiste, ce n'est pas rien de se définir comme tel en France aujourd'hui, est le premier site d'extrême droite, le premier site complotiste, et le premier site politique aussi français. C'est un site qui fait entre 5 et 7 millions de visiteurs unique par mois. C'est peu et c'est beaucoup. C'est peu parce que le monde à côté, c'est 110 millions. C'est beaucoup parce qu'un site comme le service de presse en ligne dont je m'occupe, Conspiracy Watch, c'est à peu près 100 fois moins. 100 fois moins. Donc vous voyez, on est dans une asymétrie qui est totale.
Mais alors, justement, parce que si on essaye, non pas pour se rassurer, mais en tout cas, tenter donc de raison garder, quand on prend par exemple le site de Soral, on peut se dire que parmi ces visiteurs, il y a vous, il y a moi, il y a des gens qui viennent pour voir ce qui se dit. Donc toute visite sur le site d'Alain Soral ne vaut pas approbation de ses thèses.
Bien sûr que non. Mais ça n'est pas, si vous voulez, ça reflète quand même une adhésion aussi sur le long terme. Et je pense que Soral et ce qui gravite autour de lui a influencé considérablement les mentalités depuis 10 ans dans ce pays. Tout cela n'est pas sans effet. Ce serait naïf que de le penser. C'est un site qui réédite les classiques de l'antisémitisme, de la France juive d'Edouard Drumont à Mein Kampf. Et on parle de ça.
Sur l'antisémitisme de Soral, il n'y a absolument aucun doute. C'est sur le fait que il y ait une approbation de l'ensemble de ces thèses. On va prendre un autre résultat qui a été largement commenté en lien avec cette actualité de l'antisémitisme dont il a été question ce matin, Rudi Rechtstadt. Vous avez notamment testé dans la dernière enquête que vous avez faite une croyance complotiste, la croyance dans le complot sioniste. Expliquez-nous quelle a été votre méthodologie et sur cette affirmation, quels ont été les résultats?
Alors sur cette affirmation, vous savez, elle fait partie d'une batterie centrale de 10 énoncés complotistes, 10 théories du complot, formulées de manière caricaturalement complotiste d'ailleurs. C'est un énoncé, il existe un complot sioniste à l'échelle mondiale qui avait déjà été testé par l'IFOP en 2014, une grande enquête pour la Fondapol sur l'antisémitisme en France. On était sur un énoncé formulé un tout petit peu différemment, on introduisait l'idée de Dieudonné, est-ce que vous êtes d'accord avec Dieudonné sur ce thème-là, était à 16% à l'époque, là on est à 22%. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que chez les tout à fait d'accord, lorsqu'on compare les tout à fait d'accord avec les pas d'accord du tout, on est dans un rapport de 1 à 4. Vous avez 4 personnes qui sont pas d'accord du tout, qui le rejettent, cet énoncé, ce qui est rassurant, pour une personne qui y adhère. Mais par exemple, sur la Lune, on n'a pas marché sur la Lune, vous avez 18 personnes qui rejettent cette idée-là contre une qui y adhère. Sur les vaccins, on est quasiment à 1 pour 1. Alors c'est, il y a une spécificité sur les vaccins, on pourrait y rentrer si ça vous intéresse ensuite, mais sur la notion du complot sioniste mondial quand même, ça dit quelque chose parce que c'est central dans l'antisémitisme contemporain, depuis le début du XXe siècle. Je vous rappelle quand même que les protocoles des sages de Sion, le faux antisémite qui a largement circulé dans le monde depuis la fin de la Première Guerre mondiale en réalité, est accompagné dans ses éditions de préfaces, de commentaires, qui présentent ce plan, ce fameux plan fantasmagorique de domination du monde par les juifs, comme les minutes, les comptes rendus de réunions notamment du congrès sioniste de Bâle. Vous voyez, donc c'est contemporain en fait de l'émergence du sionisme politique qui vous présente ce mouvement d'émancipation nationale, qui a ses qualités, ses défauts, qui est discutable, tout ce qu'on veut, qui est un nationalisme juif en fait, comme en réalité un projet de domination du monde. Voilà.
Ce que l'on pourrait se dire, alors peut-être pour se rassurer, Rudi Rechtstadt, c'est que le fait d'adhérer à une croyance dans le complot sioniste peut être en réalité assez ambivalent. C'est-à-dire que le terme de sionisme, il peut désigner deux choses, ou bien le sionisme originel. Alors donc on se dit, voilà, il y a par exemple une série de discours, de groupes de pression pour justifier l'État d'Israël dans son existence actuelle et dans sa politique actuelle. Et là, dans ce cas-là, on va vous dire, bah, aux États-Unis, il y a effectivement des groupes de pression qui ont pignon sur rue et qui vont justifier la politique de Benjamin Netanyahou. Et puis l'autre aspect qui, lui, est complètement différent, qui consiste à dire le sionisme, c'est finalement le mot que l'on utilise par parce que on ne peut pas utiliser le mot juif, mmh. et c'est une manière de camoufler son antisémitisme. Comment choisir entre les deux?
Mais si vous voulez, ceux qui passent à l'acte, violents, les terroristes par exemple, ils ont fait leur choix. Mohamed Merah assassine des enfants juifs à cause de ce que fait Israël. Je veux dire, il dit parce que Israël assassine des enfants palestiniens, vous voyez. C'est-à-dire que de toute façon, l'amalgame entre juifs et Israël et sionisme est fait en permanence, de toute façon. Donc, effectivement, si vous voulez, il y a sans doute cette polysémie par rapport à cet item. Mais encore une fois, les gens ont le choix entre ne pas se prononcer, entre être plutôt d'accord, plutôt pas d'accord du tout. Enfin, voilà, il y a quand même un nuancier assez large.
Bien sûr, mais je suis d'accord avec vous, l'antisionisme est une condition nécessaire du terrorisme anti-juif, c'est une condition nécessaire, ça n'est pas une condition nécessaire et suffisante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont anti-sionistes au sens politique du terme, et cela n'est pas en dehors du discours démocratique. Dans les actes que l'on voit fleurir aujourd'hui, avec une augmentation des statistiques des actes anti-juifs, Rudi Rechtstadt, comment faire un lien de cause à effet? Parce que, par exemple, hier, on a eu affaire à la profanation donc des arbres qui ont été plantés en la mémoire d'Ilan Halimi. Et on a des tags antisémites sur une représentation de Simone Veil. Bref, on a une nébuleuse. Qu'est-ce que vous comprenez à cette nébuleuse-là?
Écoutez, ce que j'y lis, c'est que dans la réalité, il n'y a pas de barrière étanche. Il n'y a pas la barrière étanche que vous faites intellectuellement, voyez, entre antisémitisme et antisionisme. Parce qu'en réalité, la remise en cause de l'État d'Israël, de la politique de l'État d'Israël, c'est quelque chose qui est pratiqué largement dans la presse israélienne d'abord, au sein de la démocratie israélienne. Enfin, il y a
on
pas
l'appelle
de
le débat démocratique.
C'est le débat démocratique. En revanche, qu'on ait en Europe et ailleurs, ailleurs en dehors d'Israël, je veux dire, des gens qui se définissent comme antisionistes et qui ne se définiraient pas, qui n'auraient pas un mot pour désigner leur opposition à la politique d'un quelconque autre État, cela, quand même, ça interroge. Si vous voulez, après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas eu des gens qui ont mis en cause l'existence de l'État allemand, par exemple. Voilà.
Si on essaye de comprendre ce phénomène dans sa nouveauté, Romain Badoir, vous qui avez beaucoup étudié Internet, son utilisation et notamment l'utilisation des réseaux sociaux, quelle est la part liée à ces réseaux sociaux? Parce qu'on a tendance à dire que finalement, ce qui pose problème, c'est l'utilisation de l'outil. On évoque l'utilisation de l'outil dans la diffusion des thèses complotistes, ou alors quand on parlait tout à l'heure de cette ligue du LOL qui a eu lieu il y a environ 10 ans et qui cyber-harcelait un certain nombre de victimes, notamment des femmes. Quel est votre point de vue là-dessus sur le fonctionnement de ces réseaux sociaux, Romain Badoir?
Effectivement, ces phénomènes, ils ont à la fois des causes culturelles. Il y a une culture de débat qui est née sur les réseaux sociaux avec ses propres codes. Où on va être plus tolérant à l'égard de l'agressivité, par exemple. On va beaucoup plus manier l'ironie que dans d'autres espaces médiatiques. Après, il y a effectivement une spécificité des réseaux sociaux qui est liée, d'une part, à leur design, à leur conception. C'est-à-dire que la manière dont on va inciter à la participation va se faire selon une logique de réactivité, de vitesse. Donc, c'est le like, le retweet, des messages courts. Et on s'aperçoit que ça va effectivement favoriser la circulation de contenus qui sont à la fois plus dans la radicalité et plus dans l'émotion. Ça, c'est un phénomène important. À cela s'ajoute le modèle économique des réseaux sociaux. C'est plus vrai peut-être pour Facebook que pour Twitter, où justement pour faire en sorte que les internautes restent le plus longtemps possible sur les plateformes et donc soient exposés au maximum de publicité, on va aussi mettre en avant des contenus plus radicaux, plus dans l'émotion, etc.
Et lorsque l'on évoque donc l'utilisation des réseaux sociaux, vous dites des codes nouveaux. À quoi pensez-vous ?
C'est ce que je disais, on s'aperçoit qu'effectivement, lorsqu'on débat sur les réseaux sociaux, on va développer une plus grande tolérance à l'égard de l'agressivité. C'est-à-dire qu'on va considérer comme davantage acceptable de s'en prendre à quelqu'un de manière agressive, d'avoir recours à la violence expressive. Et cela pour deux raisons. Soit parce qu'on va considérer que cette violence expressive, elle va se trouver une légitimité morale, c'est-à-dire qu'on va s'en prendre à quelqu'un qu'on va juger comme sortant d'une norme. Ou alors, on va utiliser cette violence expressive comme une arme politique pour intimider ses opposants, les faire taire, les pousser au silence et donner le maximum de visibilité aux propos qu'on défend.
Je vais avoir une remarque abrupte, mais est-ce que ça n'est pas tout simplement lié à l'anonymat? Parce que une remarque raciste, homophobe, antisémite dans la vie réelle, c'est compliqué, vous êtes à visage découvert. Sur Twitter, il y en a des pelletés parce que tout simplement, ça peut se faire de manière anonyme.
Alors l'anonymat est effectivement une cause qui explique en partie ces phénomènes de violence expressive, mais ce n'est pas la seule cause. C'est-à-dire qu'on a aussi des études qui montrent que sur Twitter ou sur des plateformes de pétition, par exemple, les internautes vont être violents sous leur véritable identité, justement pour se faire reconnaître par une communauté comme une personne ressource dans le débat qui ose avoir recours à la violence sous sa véritable identité. Et puis il faut pas aussi oublier que l'anonymat c'est aussi une des conditions qui a permis la libération de la parole sur Internet et les réseaux sociaux, aussi pour des choses très positives, c'est-à-dire pouvoir s'affranchir d'un certain nombre de carcans sociaux et aborder des thématiques qu'on n'oserait pas aborder peut-être sous sa véritable identité.
Et lorsque justement on évoque et lorsqu'on étudie les réseaux sociaux, est-ce qu'on ne se dit pas que la levée de l'anonymat pourrait être une clé pour en finir avec ces dérapages ?
Moi, je pense que c'est une mauvaise idée d'avoir recours à la levée de l'anonymat, parce que justement, ça va certainement faire plus de mal que de bien par rapport à ce que les réseaux sociaux ont pu apporter aussi dans le débat public et la démocratie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on met en avant les côtés négatifs que jouent ces plateformes. Elles ont aussi un rôle positif qui est de permettre un débat public plus inclusif, de permettre une prolifération des prises de parole, comme disait Dominique Cardon. Mais justement, cet anonymat, il permet de garantir aussi ça. Non, il y a des lois qui existent pour lutter contre le harcèlement, pour lutter contre les discours de haine. Il n'y a pas besoin non plus de voter des nouvelles lois, il faut juste les appliquer davantage et demander aux plateformes de collaborer davantage pour repérer ceux qui les propagent.
Florence Porcel, vous avez été l'une des victimes de cette ligue du LOL, on vous a entendu tout à l'heure évoquer votre expérience. Est-ce que par exemple, la levée de l'anonymat, vous aurez aidé si vous aviez eu les noms des personnes qui vous harcelaient?
J'aurais eu les noms. Maintenant, ça ne veut pas dire que je serais allée porter plainte. Et moi, je suis pas contre, je suis pas pour l'interdit, enfin pour la, pour je vais y arriver.
La levée
pour interdire
de l'anonymat.
Voilà, merci. Parce que par exemple, quand on prend trois principaux protagonistes de la Ligue du LOL, Vincent Glad, Henri Michel, Alex Servo, pour ne citer que, ils étaient pas anonymes du tout, et ça ne les a pas empêchés de créer la Ligue du LOL et d'en être des membres actifs. Donc le problème, il n'est pas vraiment là en fait, et l'anonymat est très intéressant pour, par exemple, pour des féministes qui sont prises pour cible régulièrement et encore aujourd'hui de manière extrêmement violente et qui, heureusement, qu'elles puissent être anonymes parce que leur vie deviendrait un enfer encore plus grand si jamais leur nom était affiché, si on pouvait aller remonter jusqu'à leur numéro, leur adresse ou je ne sais quoi d'autre. Donc, moi, je suis vraiment pas pour qu'on supprime l'anonymat, non.
Ce n'est pas ce que vous souhaitez. On continue à évoquer à 8h35 dans les matins de France Culture à la fois le complotisme, le cyberharcèlement, bref, des conséquences des réseaux sociaux. Et Rudi Rechtat, vous qui dirigez Conspiracy Watch, on se dit justement que la diffusion des thèses complotistes, de tout ce que l'on évoque depuis le début, autrement dit ces pathologies des réseaux sociaux, elles sont et aussi lié au fait que ces discussions, elles se déroulent sans médiation. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a finalement une autorégulation, sauf que ça ne s'autorégule pas du tout.
Oui, Gérald Bronner, le sociologue, parle de marché de l'information, de marché cognitif dérégulé. C'est-à-dire que ces choses-là circulent sans contrôle, mais c'est Internet fonctionne comme ça. On ne va pas désinventer Internet ou les réseaux sociaux. Donc on est aujourd'hui, de toute façon, condamné à jouer selon ces règles du jeu-là.
Sauf que si, par exemple, vous levez l'anonymat, vous posez une régulation en plus. Sauf que si, par exemple, vous considérez qu'il y a un certain nombre de formes qui vont privilégier des énoncés qui sont des énoncés violents, je pense par exemple à la forme brève. Sur Twitter, la nuance est peu présente parce que 140 caractères ou 280, puisqu'il y a eu une augmentation récemment, eh bien ça ne permet pas véritablement d'être extrêmement subtil. Est-ce que ça n'est pas aussi une explication en faveur de la diffusion de ces thèses?
Alors peut-être, je crois pas que ce soit un facteur majeur, parce que sur Twitter, lorsqu'on veut être subtil, on l'est. On peut faire des threads très longs, très illustrés,
en fait,
très intéressants.
Des groupes d'énoncés.
Voilà, exactement, des trades. Et donc, en réalité, ça dépend des utilisateurs. Et je suis pas sûr que l'outil définisse complètement le contenu, même si ça joue évidemment. Mais on observe, si vous voulez, effectivement, à la faveur de cette affaire Ligue du Log, des phénomènes de dilution de la responsabilité, de une dimension régressive aussi, une forme de barbarie. Vous parliez tout à l'heure de sadisme. Ça c'est pas seulement l'outil qui peut préjuger de tels débordements. Non, les théories du complot, elles se développent aujourd'hui, en tout cas depuis le début des années 2000, singulièrement parce que elles sont plus visibles, parce que l'outil les amplifie, et parce qu'il les amplifie, eh bien, ça fait plus adeptes.
Du coup, Romain Badois, on se dit qu'il y a une solution assez simple qui consiste à se retirer de Twitter ou ne pas l'avoir. Même chose avec Facebook. Est-ce que c'est un phénomène aujourd'hui que l'on observe? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui décident de quitter les réseaux sociaux?
Ben, a priori, oui, il y a plusieurs journalistes qui ont parlé de ce phénomène et qui ont montré que beaucoup de journalistes d'ailleurs, et aussi de militants, généralement des militants de gauche, plutôt pour des causes progressistes ou de défense des minorités, quelles qu'elle soit, préfère se retirer des réseaux sociaux plutôt que d'avoir à affronter tous les jours des flots de haine, de reproches divers. Et ça, il me semble que c'est problématique, puisque je disais tout de suite que les réseaux sociaux ont quand même un rôle positif dans le débat public, c'est de l'ouvrir, d'ouvrir le débat, de permettre à des citoyens qui n'avaient pas accès au débat public d'y avoir accès. Mais effectivement, si on se rend compte que ces phénomènes d'intimidation et de harcèlement poussent les voix les plus progressistes dans le débat à se retirer, à qui on laisse la place. C'est un peu ça le problème.
Ça vous fait peur aujourd'hui ?
Peur, il faut pas exagérer. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. C'était très différent il y a 5 ans. Comment ce sera dans 5 ans, on ne sait pas aujourd'hui. Mais il y a un phénomène général de brutalisation du débat qui peut être aussi inquiétant.
Oui. Mais parce que quand on voit les énoncés sur Twitter, on se dit que ces énoncés, quels qu'ils soient d'ailleurs, ne peuvent convaincre que les convaincus. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout un lieu qui est propice à l'argumentation. Mmh. Et je ne vois pas, et encore une fois, je ne pense pas à un énoncé en particulier. Je me dis juste que lorsqu'on lit un article, un livre a fortiori, on peut suivre et adhérer ou pas à un raisonnement qu'on n'avait pas. Sur Twitter, je suis désolé, mais je ne vois pas.
Bah effectivement, là justement, le rôle de conception de cette plateforme, il est important. C'est-à-dire que sur Twitter, avec les hashtags notamment, on se rend compte que les internautes vont se regrouper en fonction de communautés de valeurs ou de communautés d'idées et ne vont pas forcément chercher à échanger entre différentes communautés. Elles vont plutôt chercher à intimider la communauté d'en face pour rendre leurs arguments les plus visibles sur les réseaux sociaux, pour s'adresser à un troisième acteur dont on ne parle pas, qui est le public qui ne participe pas et qui utilise ces plateformes uniquement pour s'informer et pour lire, et qui est peut-être le public majoritaire sur ces plateformes. Sur des plateformes comme Facebook, on a d'autres formes d'intervention de la conception dans ces phénomènes, qui est justement comment les algorithmes vont porter à nos connaissances des informations qui sont celles publiées par les gens dont nous sommes le plus proches, et donc de la même façon créer des phénomènes d'entre-soi, des mécanismes d'autoconviction qui effectivement ne sont pas propices au débat contradictoire.
Qu'est-ce que vous en pensez, Florence Porcel ?
Alors, moi j'en pense que Twitter et les réseaux sociaux en général, YouTube c'est pareil, sont des outils. Et que donc, quand on a un marteau, on peut construire une maison ou fracasser un crâne. Les réseaux sociaux c'est pareil, c'est un outil et on peut les utiliser d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Et vous me demandiez tout à l'heure pourquoi je quittais pas Twitter, et je tiens à y rester justement pour ne pas que les gens en face gagnent du terrain. Et aussi parce que moi je suis vulgarisatrice scientifique et vous parliez tout à l'heure des théories du complot. Moi, je vois une recrudescence de gens qui pensent que la Terre est plate, qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Et si moi, je m'en vais de Twitter et que je ne suis pas là pour expliquer, faire des trades, etc., pour dire je vais vous expliquer pourquoi c'est une croyance et pourquoi, enfin voilà, donner des arguments, etc. Je veux dire, si on n'est pas présent, si on n'a pas cette présence-là et si on n'est pas actif, forcément, on va se faire bouffer par les complotistes en tout genre. Et ça, il ne faut absolument pas que ça arrive. Et malgré la violence et le harcèlement qui continue, je suis toujours harcelée régulièrement, je tiens le coup à la fois sur Twitter et sur YouTube. Combien de temps, je sais pas, parce qu'à un moment je suis juste humaine et j'ai mes limites et mes faiblesses aussi, mais je vais vraiment essayer de tenir le coup le plus longtemps, parce que ce serait vraiment un mauvais signal à envoyer qu'on laisse gagner du terrain aux complotistes, aux harceleurs et à tous les obscurantistes racisme auquel on peut penser.
Mais Rudi Reichstadt, vous avez vraiment l'impression que ça sert à quelque chose d'être sur Twitter? Prenez par exemple un complot dénoncé par ceux qui veulent réouvrir les études sur le 11 septembre 2001 sur les attentats du World Trade Center. Depuis le 11 septembre 2001, on a l'impression que l'incrédulité à l'égard de cet attentat monte, non? Vous faites l'amour?
Non, moi je crois qu'elle est même plutôt en léger recul. Sur le 11 septembre 2001, oui. Cette théorie du complot, elle est plutôt contenue en ce moment. Ça ne préjuge pas de ce qui va se passer à l'avenir. Je pense que c'est cyclique, ça peut revenir. Mais en l'occurrence, c'est une théorie du complot très connue du public, des deux tiers des sondés en l'occurrence, donc plutôt bonne notoriété, mais qui est assez peu crue, qui est relativement contenue. Non, ce que disait Florence Porcel à l'instant est très très important, parce que je crois qu'il faut investir ces plateformes, il ne faut pas laisser ce terrain justement aux haineux, à ceux qui mettent en circulation des théories du complot ou des fausses nouvelles. Il faut se battre, et je crois qu'en plus il est possible, malgré tout, de se battre sans se battre avec les armes de ses adversaires. Vous avez sur Twitter des gens comme Raphaël Antoven, comme Marilyn Maezo, qui essaient de promouvoir justement ça, une éthique du dialogue constructif, de ne jamais être dans l'invective et de pouvoir avoir des discussions, et c'est pas facile, mais des discussions éclairées avec des gens qui pensent pas comme eux.
Romain Badoir, autre hypothèse, le fait que les réseaux sociaux aient aujourd'hui tant d'importance, est-ce que ça n'est pas aussi la faute en partie aux médias officiels qui se sont souvent servis des réseaux sociaux comme s'il s'agissait en quelque sorte d'une voix populaire, alors qu'en réalité on sait bien que sur Twitter et sur Facebook, on n'a pas une représentation de la société dans son intégralité?
Oui, tout à fait. Effectivement, il y a une articulation très nette entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Et l'émergence des réseaux sociaux n'a absolument pas tué les médias traditionnels. Mais cette articulation, elle se fait pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, par exemple, si on regarde un mouvement comme MeToo ou Balance ton porc, il n'aurait pas pu exister sans l'agrégation de témoignages sur les réseaux sociaux. Mais ce sont les médias traditionnels qui lui offrent une caisse de résonance pour en faire un problème public dont on va parler, que l'on va débattre, etc. Et puis, effectivement, pour le pire, parce qu'à partir du moment où on se tourne sur les réseaux sociaux pour essayer de sonder la population, alors qu'on est surtout face à Twitter, on est face à une population qui est très particulière.
Quel pourcentage de la population qui est sur Twitter?
On sait qu'en tout cas, parmi les utilisateurs de Twitter sont surreprésentés les hommes, citadins, suréduqués et des classes supérieures. Donc c'est effectivement pas représentatif de la population française. Alors même que sur Facebook, on a affaire à un public qui est beaucoup plus populaire.
Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a des choses qui se passent sur Twitter qui sont montées en épingle par les médias, alors pas officiels, c'est un terme complotiste de dire les médias officiels. Non, mais par les médias classiques, professionnels. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est un problème qui a d'ailleurs été souligné par le président de la République il y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, dans un interview, enfin des propos rapportés notamment par Le Point, et qui disait effectivement il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux et qui sont rapportées, on en fait des actes politiques et des choses qui comptent énormément, mais il y a un effet loupe là qui est à l'œuvre et qu'il faut pas oublier.
Effet de génération aussi, parce que lorsque l'on prend les réseaux sociaux, par exemple. Moi, la ligue du LOL m'a étonné parce que à l'époque, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. C'est une pratique qui, pour moi, est postérieure, alors que votre génération, vous avez environ 35 ans, est une génération qui, elle, depuis le début, est sur les réseaux sociaux. Alors, à la fois, ça peut préjuger de l'avenir, parce que moi, je suis pas très confiant sur l'avenir d'une société qui reposerait entièrement sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça ne compte pas aussi, Rudi Reichstadt?
Écoutez, ce qu'on voit, alors, c'est très intéressant, ça me permet de reparler du sondage. Ce qu'on voit, c'est que le degré d'adhésion à des théories du complot est lié, est corrélé à des pratiques informationnelles, à la manière dont on s'informe prioritairement. Effectivement, lorsqu'on s'informe d'abord sur Internet, mais en fait sur les réseaux sociaux, sans même parler des plateformes de vidéos en ligne, prioritairement, eh bien, on est plus perméable à ce type de contenu. C'est le cas des jeunes et des moins de 35 ans, en l'occurrence, et on s'aperçoit aussi que les moins de 35 ans sont plus perméables que la moyenne, et largement plus, dans un rapport parfois de 1 à 3, que leurs aînés, c'est-à-dire que leurs grands-parents, les seniors, par exemple. Et ce que ça dit, c'est que par simple remplacement générationnel, dans 10, 20, 30 ans, si on continue sur cette tendance-là, il n'y a pas de raison qu'on vive dans une société moins complotiste qu'elle ne l'est aujourd'hui, ce qui est un vrai point de préoccupation pour l'avenir.
Merci à vous trois. Florence Porcel, vous étiez au studio de Radio France Lyon, que je remercie. Rudy Rechtad, votre enquête sur le complotisme 2019 est disponible en ligne, notamment sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Et Romain Badois, votre livre « Le désenchantement de l'Internet ».